Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui. Eric Manela Kiza avec vous. Au sommaire ce soir. Ultime duel télévisé ce soir à Nashville dans le Tennessee entre le président Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Washington et l'Union africaine condamnent le recours excessif à la force contre les manifestants au Nigeria. En Guinée, la commission électorale publie depuis hier les résultats provisoires présidentiels sur fond de tension. En Côte d'Ivoire, il y a eu des excès de fièvre dans plusieurs villes à moins de 10 jours de la présidentielle. Et votre page d'espoir sera peu après ce journal. Et nous commençons tout de suite par l'actualité américaine avec la présidentielle du 3 novembre. Le président américain Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden s'affrontent ce soir dans leur dernier débat télévisé avant le scrutin du 3 novembre. Le reportage de Caroline Presutti à Nashville, dans le Tennessee, le récit est signé Lionel Runanira Gahima.
La cacophonie du premier débat est restée dans les mémoires. Alors, pour éviter les interruptions, le comité d'organisation a changé les règles. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre alors que le micro de son adversaire sera coupé. Puis les 2 micros seront ouverts pour les discussions qui vont suivre. Nashville, dans le Tennessee, accueille ce débat ultime. 90 minutes pour convaincre, c'est une ville à tendance démocrate dans un État républicain. Nashville est aussi la capitale de la musique country, mais la ville souffre de restrictions dues au coronavirus. Tamika Johnson scolarise ses enfants à la maison. C'est une électrice indécise qui veut des réponses sur la pandémie.
Le vaccin, vous savez, la façon dont cela affectera les enfants lorsqu'ils retourneront à l'école.
Le coronavirus a fait changer d'avis Ali Goldsmith. Elle a voté pour Donald Trump en 2016, mais maintenant, elle a pris ses distances.
Il n'a vraiment pas fait preuve de leadership sur la façon dont il a traité la pandémie elle-même.
La foi est un moteur pour Ephraim Urias, leader d'une église qui a décidé de voter pour Donald Trump.
J'apprécie ce que Trump dit comme l'avortement est un meurtre et nous avons tous droit à la vie.
Trump est également assuré du vote de Debbie Cook.
Joe Biden est là depuis 40 ans et n'a rien fait. Que pensez-vous qu'il va faire maintenant?
Ce débat final va-t-il changer la vie de nombreux électeurs? En tout cas, pour les 40 millions d'Américains qui ont déjà voté, brisant tous les records sur le vote anticipé. Bob Bernstein est du nombre.
J'ai voté le deuxième jour du vote anticipé.
Les deux candidats seraient avisés de garder leur sang-froid, déclare le politologue Mark Jones de l'université Rice. Il dit que Biden doit rester focalisé et donner des réponses ciblées. Et son conseil pour Trump?
Donnez un peu plus d'espace à Biden. Interrompez-le sur les questions faciles, mais sur les questions difficiles, laissez-le parler. Parce que le seul espoir de Trump est que Biden dise quelque chose pendant cette période qui reviendra le hanter.
Autrement dit, le pousser à commettre une gaffe. Après le premier débat, les sondages ont été à l'avantage de Biden. Et pour le duel télévisé de ce soir, Trump espère renverser la vapeur.
C'est donc la dernière ligne droite avant la présidentielle du 3 novembre. Sur l'histoire et l'importance de ces débats présidentiels, Abdulrahman Dia, agent ici à Washington, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de La Voix de l'Amérique.
Bien, ils permettent normalement à chaque candidat de présenter sa politique et d'établir une différence, un contraste avec son rival. En ce qui concerne le débat de ce soir, c'est la dernière chance pour le président Trump, la dernière chance de changer la trajectoire de cette élection, étant donné que Joe Biden a tout de même une avance considérable de 10 points sur lui.
Vous avez regardé quand même beaucoup de débats présidentiels. Pour parler un peu d'histoire, quels sont les débats qui vous ont le plus marqué?
Il y en a beaucoup. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais je pense personnellement que les débats qui ont eu lieu jusqu'en 1992, jusqu'à l'élection de Bill Clinton, ont été peut-être plus mémorables que ceux qui ont suivi. En effet, Depuis, je dirais que la qualité progressivement s'est dégradée et que ces débats sont devenus plus un spectacle, parfois même un match de catch, comme on l'a vu lors du débat, du premier débat Trump-Biden.
Alors, il y a quand même le débat Reagan-Mandel qui, beaucoup pensent, a quand même changé la trajectoire de l'élection.
Oui, absolument. Et si vous me demandez celui dont je me souviens le mieux, c'est effectivement celui-là. Lorsqu'un journaliste avait demandé l'âge de Ronald Reagan, qui avait alors 73 ans, presque jeune, comparé à nos candidats de cette année, il avait répondu « Je me refuse à utiliser l'âge comme sujet de campagne. Je ne veux pas profiter de la jeunesse et de l'âge. Je ne veux pas exploiter la jeunesse et ni l'expérience de mon rival. » Et même Walter Mondale, qui avait tout de même à l'époque à peu près la cinquantaine, a souri. C'est quelque chose, je crois, que tous les Américains et tous ceux qui ont suivi les débats se souviennent encore aujourd'hui.
Peut-être la leçon, c'est qu'on peut toujours tourner ce qui peut être vu comme un désavantage en avantage.
Absolument, absolument. Et je pense que la meilleure carte que puisse jouer un candidat dans une situation pareille, quand il est en difficulté, c'est l'humour. Et l'humour, en général, est toujours un bon moyen d'attirer les électeurs.
Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Lagos est toujours sous couvre-feu, ses rues désertées et ses boutiques fermées au lendemain d'une journée de violence qui ont éclaté après la répression des manifestations dans la mégalopole nigériane. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce matin, la tension a baissé d'un cran. Au moins 38 personnes ont été tuées mardi à travers le pays, dont 12 à Lagos, où l'armée et la police ont tiré à balles réelles sur deux rassemblements selon Amnesty International, qui parle de 56 personnes tuées depuis le début de la contestation. « Je ne peux pas dire qui est impliqué dans cette fusillade, certainement pas la police », a affirmé Mohamed Maïgari Dingyadi, ministre de la police, ajoutant que les militaires nient aussi en être responsables. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des militaires tirés à balles réelles sur la foule qui agitaient des drapeaux et chantaient l'hymne national. Justice leur sera rendue, a déclaré le vice-président Yemi Osinbajo. Le président Muhammadu Buhari n'a encore rien dit sur ces fusillades. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, le département d'État américain, l'Union européenne et l'ONU ont condamné ces violences. Le Nigeria est secoué depuis deux semaines par une contestation contre les violences policières et la corruption.
En Guinée, la tension restait vive depuis que l'opposant Selou Dalein Diallo s'est déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 18 octobre. Mercredi soir, le candidat de l'UFDG a appelé ses partisans à continuer la lutte pour défendre sa victoire. C'est dans ce contexte tendu que la Commission électorale nationale indépendante a poursuivi hier la publication des résultats provisoires partiels. Correspondance à Conakry de Zakaria Kamara.
Avec les résultats de 16 autres circonscriptions, la Commission électorale nationale indépendante en est à 20 sur les 38 que compte le pays. Les tendances qui donnent une avance pour le président sur Alpha Condé, alors que son principal opposant revendique sa victoire dès le premier tour. Depuis le matin, un calme précaire règne dans certains quartiers de la capitale, tandis que des manifestations sporadiques sont signalées dans d'autres. Les forces de sécurité sont visibles un peu partout à Conakry, y compris aux alentours du domicile de l'opposant Selou Dalein Diallo, qui dénonce une violation de ses droits. En conférence de presse mercredi à Conakry, le ministre guinéen de la Sécurité a parlé de raisons sécuritaires. Albert Damantan Camara a souhaité ne pas en dire plus pour éviter des informations qui, selon lui, pourraient exacerber les tensions. Les violences post-électorales ont fait 9 morts et plusieurs blessés à Conakry à l'intérieur du pays, selon le gouvernement guinéen. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui devait se rendre aujourd'hui à Bamako, a reporté son voyage à dimanche. Monsieur Le Drian doit rencontrer les autorités de transition afin de travailler à la relance des accords de paix d'Alger de 2015, dont la mise en œuvre est en grande partie restée lettre morte. L'OMS a promis jeudi de déployer des nouveaux tests rapides pour diagnostiquer les cas de Covid-19 en Afrique, l'une des régions du monde les moins affectées par la pandémie, selon un communiqué. L'OTAN va créer un centre spatial en Allemagne chargé de protéger les satellites des pays de l'Alliance contre les attaques ennemies, a annoncé aujourd'hui son secrétaire général Jens Stoltenberg.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le Sénat a franchi la première étape vers la confirmation de la juge Amy Coney Barrett, nommée à la Cour suprême. Les 12 sénateurs républicains de la commission judiciaire ont voté pour transmettre le dossier à la plénière. Leurs 10 collègues démocrates, qui jugent le processus illégitime, ont boycotté la séance. Le Sénat entame demain vendredi l'examen en séance plénière. Son chef républicain, Mitch McConnell, vise un vote final lundi, à 8 jours des élections. L'Iran et la Russie ont dénoncé des allégations des États-Unis les accusant de s'être procuré des données d'électeurs américains. Téhéran a convoqué l'ambassadeur de Suisse qui représente les intérêts des États-Unis en Iran, Nathalie Barsh.
Répétant que l'Iran n'avait aucune préférence pour un quelconque candidat à la présidentielle américaine, le porte-parole des affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a appelé Washington à cesser ses accusations et ses inventions de scénarios suspects. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit regretter les déclarations du renseignement américain. De telles accusations tombent tous les jours, elles sont tout à fait infondées, a-t-il déclaré à la presse. Le directeur du renseignement américain, John Ratcliffe, affirme que Moscou et Téhéran ont obtenu des informations sur les listes électorales américaines et entrepris des actions spécifiques pour influencer l'opinion publique en lien avec la présidentielle du 3 novembre. Il a notamment accusé l'Iran d'avoir envoyé des emails visant à intimider les électeurs, à inciter aux troubles sociaux et à nuire au président Trump.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo avec vous ce soir.
Bonsoir à tous. La demi-finale retour de la Ligue des champions CAF, qui devait être jouée samedi entre le Raja et le Zamalek, a été reportée au 1er novembre en raison de cas de Covid-19 dans l'équipe marocaine. La CAF a été informée mardi de 8 cas de Covid-19 parmi les joueurs du Raja de Casablanca et du confinement du club jusqu'au 27 octobre, écrit l'instance africaine dans un communiqué. L'autre demi-finale retour entre Al Ahly SC et le Wydad est maintenue pour demain vendredi et la finale reste prévue le 6 novembre. Samedi et dimanche, lors des demi-finales allées, les clubs égyptiens Al Ahly et Zamalek sont sortis vainqueurs de leur duel respectif avec les Marocains du Wydad et du Raja. Les deux matchs se sont soldés par une victoire 1-0 des Égyptiens. Le Kenya a son nouveau sélectionneur. Après sa séparation d'avec Francis Kimanzi, la Fédération kenyane de football a nommé Jacob Muli pour lui succéder. Le technicien kenyan de 52 ans qui a signé un contrat de 3 ans va diriger les Harambee Stars pour la 5e fois après son dernier passage à la tête de l'équipe nationale en 2010. Surnommé Ghost, Muli a qualifié le Kenya pour la CAN Tunisie 2004. Muli va commencer son boulot dans moins d'un mois lors des éliminatoires de la CAN 2021. Le Kenya, qui compte 2 points dans son groupe, fera face aux Comores en double confrontation. Des Africains ont brillé en Ligue des champions hier en Europe. Le Sénégalais Sadio Mané a poussé à la faute Tagliafico, qui a marqué contre son camp, permettant à Liverpool de ramener 3 points des Pays-Bas au détriment de l'Ajax. En revanche, défaite d'entrée donc pour le Camerounais André Onana, le Marocain Mezraoui et le Burkinabé Franck Lassina Traoré. L'international égyptien Ahmed Hassan Magoub a permis à l'Olympiakos de prendre les 3 points dans les dernières minutes face à l'Olympique de Marseille. Entré en jeu en fin de rencontre, le Camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting et le Bayern Munich ont explosé l'Atlético Madrid 4-0. avec un but de l'Algérien Ben Zebaini. Le Borussia Mönchengladbach a contraint l'Inter Milan au match nul 2-2.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. Au Nigeria, la tension a baissé d'un cran aujourd'hui. Au moins 38 personnes ont été tuées mardi à travers le pays, dont 12 à Lagos. Accusés d'avoir tiré à balles réelles sur deux rassemblements, selon Amnesty International, l'armée et la police nient leur implication. L'ONG parle de 56 personnes tuées depuis le début de la contestation. Lagos est sous couvre-feu pendant que les manifestants luttent depuis deux semaines contre les violences policières et la corruption. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Amoussou Tondounou, ancien recteur de l'Université de l'État de Lagos.
À un moment, il y a eu des gens qui ont préféré envoyer des loubars pour justement déranger ceux qui manifestaient tranquillement. La police a décidé ensuite pratiquement d'aider ces loubars-là. Parce que les manifestations, en général, ont commencé avec souvent des jeunes qui ont quand même des niveaux d'études bac plus licence et autres. Et vous imaginez que ce ne sont pas ces gens-là qui vont casser les voitures, qui vont mettre le feu à des bâtiments et tout. Maintenant, évidemment, il y a des démentis de part et d'autre. On dit qu'il est responsable, qu'il ne l'est pas. De toute façon, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à un moment donné, il paraît que les forces de l'ordre ont eu la terrible idée de se retirer. Et que quand on a commencé à tirer à barre réelle, c'est au moment où on a coupé le courant.
Le vice-président Yemi Osinbajo a dit que justice sera rendue aux victimes. Le président Muhammadu Buhari ne s'est pas encore exprimé sur les fusillades et cela fait l'objet de critiques sur la toile. Pourquoi le silence du président là-dessus?
C'est vraiment dommage. Un président de la République doit prendre les choses en main. Ce n'est pas l'idée, la bonne idée d'envoyer son numéro 2. Alors que s'il avait pris la parole dès le départ, on aurait quand même pu avoir une meilleure solution.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le département d'État américain, l'Union européenne et l'ONU ont tous condamné ces violences. Est-ce que vous pensez que ça puisse être une sorte de pression sur le pouvoir d'Abuja?
Non, franchement, moi je crois que le pouvoir fait le dos rond, c'est pourquoi justement, jusqu'ici, il n'y a pas eu de réaction de la part du président de la République. Et c'est vraiment dommage parce que dans une démocratie, il faut que quelqu'un parle au nom de la République. Et c'est le président qui doit le faire.
Est-ce que l'effet du temps et le couvre-feu joint à la répression pourrait décourager les manifestants?
Non, dans un premier temps, ça pourra décourager. De toute façon, tant qu'il y a couvre-feu, n'est-ce pas, c'est une manière d'inviter les militaires à reprendre les actions. Parce que quand il y a couvre-feu, alors que les gens n'ont rien à manger, il faut absolument qu'ils mangent quand même, qu'ils sortent pour aller chercher de quoi manger. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour, surtout au Nigeria, à Lagos. Et maintenant, quand il y a couvre-feu de 3 ou 4 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont vraiment survivre? S'ils arrivent à réprimer dans un premier temps pendant 2 ou 3 jours, je crois que la reprise, si on ne prend pas garde, la reprise sera encore plus terrible.
Au départ, les manifestants appelaient à dissoudre la SRAT, cette unité spéciale de la police accusée d'exactions sur les populations. Le gouvernement a dit dissoudre la SRAT. Ensuite, les manifestants réclament plus de transparence et donc lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Est-ce que il y a cette frustration profonde qui justifierait ce ras-le-bol?
Ah oui, quand même. Je ne vois pas comment certains arrivent même à boucler la semaine avec le salaire qu'on leur propose. Ça ne fait même pas 100 dollars aujourd'hui. Il y a le ras-le-bol. Et de l'autre côté, vous voyez, les parlementaires au Nigeria, ils gagnent encore plus que même les Américains, il paraît. On a eu gain de cause, n'est-ce pas, contre la police. Mais il y a d'autres problèmes encore. Et c'est pourquoi, moi, je me dis que les manifestations, ce n'est que le début, parce qu'il faudra quand même qu'on trouve une solution à long terme, puisqu'il ne va pas au Niger.
Professeur Amoussou Tondounou, ancien recteur de l'Université de l'État de Lagos.
En Côte d'Ivoire, à 9 jours de l'élection présidentielle, les violences ont gagné du terrain dans certaines localités. Dabou, ville située à l'ouest d'Abidjan, a connu hier mercredi l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début des manifestations contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat. Le point avec Aïcha Diarra.
Au moins 7 morts selon les chiffres officiels et plus d'une dizaine d'après les populations jointes sur place. La tension n'a cessé de monter depuis le lundi 19 octobre dernier jusqu'à hier mercredi dans la ville de Dabou et ses environs. Joint au téléphone, Malik Camara fait le film de la journée d'hier.
Ils ont d'abord attaqué un quartier Mangoutou. C'est un plan de guerre qu'ils ont fait. Ils nous ont passé un tête tous vers la ville. Le Mangoutou, il est un peu reculé en fait. Donc ils nous ont attaqué par là-bas. On est allé, on va donner un coup de pouce à ceux de là-bas. Ils ont cherché à rentrer dans la ville maintenant. On les a repoussés. C'est qu'on a constaté parce qu'ils ont brûlé des maisons. Ces maisons qu'ils ont brûlées, il y avait des femmes, donc ils n'ont pas touché à ces femmes-là. Donc ces femmes-là nous ont dit qu'ils parlaient de l'anglais. Donc on constate qu'il y a les miliciens parmi nous ici même. Donc la situation est très dégradante ici à Dabou, très dégradante.
Des hommes bien organisés qui veulent créer des conditions d'une guerre interethnique pour cet homme qui a préféré garder l'anonymat.
On a été attaqué vraiment par une organisation qui n'a rien à voir avec les Adjoukou. Voilà, les Adjoukou ont été instrumentés, nous on a été instrumentés pour faire divergence ou des dissensions, je ne sais pas. Mais pour nous occuper à autre chose, pouvoir faire autre chose. C'est hier même nous nous sommes rendus compte que c'est au-delà d'une histoire des Djoulas.
Selon des Adjoukou que nous avons eu au téléphone, eux, ils souhaitaient uniquement faire une marche pacifique lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait des infiltrés parmi eux qui créent le désordre. Le maire de Dabou, Jean-Claude Yédé Niang, et le préfet de la ville, Rémi Nzikanga, disent la même chose. Théâtre de pillage et d'affrontement à l'arme blanche comme à l'arme automatique, il a fallu l'intervention de renforts de la gendarmerie venue d'Abidjan pour ramener le calme à Dabou. Aïcha Diarra depuis Boaké pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, des centaines de ressortissants guinéens ont marché sur l'ambassade de Guinée à Dakar pour protester contre la tournure de la présidentielle dans leur pays. Dispersés à coups de grenades lacrymogènes par le groupement d'intervention de la police sénégalaise, les citoyens guinéens résidant à Dakar n'ont pas dit leur dernier mot. Les précisions de Seydina Abagay, notre correspondant sur place.
Privés de vote par leur gouvernement qui a décidé de ne pas organiser le scrutin sur le territoire sénégalais, les citoyens guinéens établis au Sénégal ne se sont pas pour autant désintéressés de ce qui se passe dans leur pays. Et pour que leur voix soit audible à défaut d'être comptabilisée, ils sont sortis dans les rues de Dakar, comme l'explique Mohamed Diallo, ex-président de l'Amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal.
Ça, c'est la conséquence du non-vote des Guinéens ici au Sénégal. C'est un sentiment de frustration parce que cette marche n'a jamais été planée. C'est venu tout comme ça, les gens se sont appelés après la proclamation des premiers résultats en Guinée. A priori, Alpha Condé il a perdu, il a changé les résultats. Les gens sont frustrés pourquoi ils n'ont pas voté ici. Nous sommes plus de 3 millions de Guinéens au Sénégal. Donc je pense que les gens expriment leur ras-le-bol suite à l'injustice que nos frères aussi subissent en Guinée.
Membre du comité ayant piloté le processus de recensement des électeurs guinéens au Sénégal, Mohamed Diallo donne des détails sur les couacs ayant abouti à l'échec du processus.
L'ambassade d'ici et le parti au pouvoir, le gouvernement guinéen, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas révision ici. Maintenant, les gens se sont frustrés, ils se sont pris à l'ambassade, ils ont bloqué, c'était sciemment fait, c'est des coups politiques parce qu'ils estiment ici c'est un bastion de l'opposition. Nous sommes plus de 3 millions de Guinéens ici, donc a priori au moins les 1 700 000 allaient voter, donc ils savent que c'est un bastion qu'il faut sciemment écarter.
Cette situation au Sénégal et celle qui prévaut en Guinée n'augure rien de bon, d'après le journaliste guinéen Mamoudou Yaya Baldé. Pour lui, la Guinée court droit vers le mur.
Nous n'avons pas un état de droit. Nous avons un état policier, un état violent qui a toujours brillé dans la répression. Donc voilà d'abord la nature de l'état. On ne peut pas comprendre les exactions qui sont en train d'être commises aujourd'hui lorsque vous ne pouvez pas comprendre la nature de l'état que nous avons. Et l'histoire politique de notre pays, et surtout la sociologie électorale de notre pays, elle est caractérisée par la fraude, la violence et les contestations. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est réuni pour qu'il y ait une explosion en Guinée.
Les ressortissants opposition guinéenne au Sénégal ne compte pas baisser d'intensité dans la contestation, mais ils appellent également la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale à agir. D'après eux, si la Guinée sombre, les pays limitrophes comme le Sénégal seront les premiers impactés. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
À partir du 19 octobre, VOA Afrique vous invite à suivre toute l'actualité sur les élections américaines 2020 et la course à la Maison Blanche. Des reportages, des analyses, des témoignages et des éditions spéciales qui vous font vivre tous les jours et en temps réel le déroulement de la présidentielle américaine du 3 novembre. Vous pouvez aussi participer à la conversation et réagir depuis votre pays. Le président Donald Trump sera-t-il réélu ? Le démocrate Joe Biden pourra-t-il gagner face à son rival républicain? Rendez-vous sur votre fréquence de VOA Afrique et sur nos stations partenaires. Retrouvez également les sujets traités sur votre site voaafrique.com et sur Facebook.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissa, Michel Joseph, Lionel Rudanira Gahima et Georges Léonard Sagnou. À la présentation, Eric Manirakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Chaque année, environ 300 000 enfants d'Afrique subsaharienne naissent avec la drépanocytose, une maladie causée par une ancienne mutation de l'un des gènes responsables du développement de l'hémoglobine. La maladie cause d'atroces douleurs ainsi que des dommages aux organes et au système immunitaire. Le dommage au système immunitaire survient très très tôt, si bien que les enfants qui ne reçoivent pas de soins appropriés peuvent mourir d'infections bactériennes très rapidement, a expliqué Brett Girouard, pédiatre et amiral dans le service américain de santé publique, actuellement secrétaire adjoint au ministère américain de la Santé. En effet, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, on estime que 80% des enfants atteints de la drépanocytose vont mourir avant leur 5e anniversaire. Au plan international, les États-Unis œuvrent avec des pays comme l'Ouganda, qui vient juste de publier un plan national de traitement de la drépanocytose. Le plan ougandais est réellement un jalon, a dit l'amiral Girouard. C'est un plan spécifique, le coût a été entièrement évalué et c'est fait chronologiquement. C'est bien que nous savons ce qui doit être fait et quand cela doit l'être. C'est donc un plan robuste qui peut servir d'exemple au reste du continent. Il est important de noter que ce plan a été élaboré par l'Ouganda pour le peuple ougandais, a souligné l'amiral Girouard.
Ce que l'Ouganda a fait, c'était de comprendre la situation à l'intérieur du pays. Étant donné que dans plusieurs régions, la maladie est plus prévalente que dans d'autres. Ce sont des sortes d'accidents génétiques pour celui qui vit dans ces zones et comment ça se développe avec le temps. Ainsi, c'était un plan ciblé. Cela commence dans les endroits subissant le pire impact de la drépanocytose. Ainsi, les autorités vont d'abord se concentrer sur 75 districts sanitaires, puis étendre l'opération. L'Ouganda a accepté que son plan soit partagé avec d'autres pays à travers l'Afrique. Il faudra l'adapter aux besoins, à la population et à la situation économique de chaque pays. Mais cela peut se faire facilement, a assuré l'amiral Girouard, ajoutant « La première étape est d'avoir un plan ». La seconde est vraiment de l'exécuter. Mais nous sommes dans une bonne position pour élaborer le plan et le mettre en œuvre.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.